Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir, La Presse et Liberté. Au programme, de nouvelles primes pour les cliniques privées. Jésus, de où déjà? Quand l'histoire des Noirs fera simplement partie de l'histoire. Et Marcus Chambers, un pionnier conscient de son rôle. Bonne écoute.
De nouvelles primes pour les cliniques privées, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Les cliniques privées qui réalisent des opérations pour le compte du réseau public recevront dorénavant une prime de 10% ou 20% pour les interventions complexes, ainsi qu'une bonification de 5% ou 15% pour les patients en attente depuis 6 mois ou plus. Le gouvernement Legault a récemment formulé une directive destinée aux établissements de santé qui encadrent les futurs contrats avec le privé. Depuis la pandémie de COVID-19, les centres médicaux spécialisés, CMS, qui effectuent des interventions chirurgicales pour le réseau public, bénéficient d'une marge de profit de 15% plutôt que de 10% comme par le passé. Les ententes à cet effet, conclues en 2020 dans le but de rattraper le retard en chirurgie, ont été prolongées jusqu'au 31 mars 2023. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, a publié le 22 décembre 2022 une circulaire balisant certains éléments des futures ententes avec les CMS, les laboratoires d'imagerie médicale et les autres cliniques privées. La marge bénéficiaire de 15% disparaît des contrats, mais de nouvelles primes apparaissent. Le modèle de bordereau de prix présenté dans la directive est basé sur le coût de l'opération dans le réseau public, coût direct et fourniture, un rajustement financier de ces coûts, selon le CMS, ainsi qu'une bonification pour la complexité et pour le temps d'attente du patient. La prime pour un acte de complexité moyenne s'élève à 10% et grimpe à 20% pour une intervention encore plus complexe. Les CMS obtiennent par ailleurs une bonification de 5% lorsque le patient opéré attend son intervention depuis 6 mois à 1 an et de 15% quand cela fait plus d'un an. C'est à ce chapitre que la directive fait sourciller. Pourquoi offrir aux CMS une prime liée au temps d'attente? Offrir un incitatif à la réduction majeure des listes d'attente considérées comme hors délai, répond le ministère dans un courriel. Les CMS n'ont pourtant aucun levier sur l'ordre dans lequel le centre intégré a priorisé les patients, indique Annick Mongeau, qui représente notamment Hop Médic et Chirurgie 10-30. Un CI3S et des chirurgiens contactés par Le Devoir le confirment. Les établissements de santé déterminent et fournissent aux cliniques la liste des patients devant être opérés. Je comprends l'objectif, mais je doute que ce soit le meilleur moyen pour permettre au ministre d'atteindre les cibles qu'il a établies, dit Mme Mongeau. D'après elle, la directive soulève pour le moment beaucoup plus de questions qu'il n'y a de réponses. Maud Laberge, professeur en économie de la santé à la Faculté de médecine de l'Université Laval, s'interroge aussi sur cette prime. L'établissement n'a pas vraiment intérêt à transférer ses patients qui attendent depuis longtemps, parce que ça va lui coûter plus cher, observe-t-elle. Au M3S, on indique que cette majoration est offerte pour la première année seulement de l'entente, d'une durée minimale de 3 ans et maximale de 5 ans. La pérennité des contrats devrait inciter les CMS à investir dans certains équipements nécessaires à la réalisation de certaines interventions plus complexes, ajoute le ministère. Ainsi, les CMS pourront contribuer davantage à la réduction de la liste d'attente. Trop cher payé ou pas? Il est difficile d'évaluer à partir de la directive combien les contribuables paieront exactement pour les opérations réalisées en CMS. La professeure Laberge juge néanmoins problématique que le gouvernement bonifie le tarif offert aux cliniques par rapport à ce que ça nous coûte dans le réseau public. L'avantage potentiel des cliniques spécialisées, c'est qu'elles devraient avoir des coûts de fonctionnement plus faibles qu'un gros hôpital qui a une diversité de services et qui doit avoir des plateaux techniques plus complets, affirme-t-elle. Si les coûts de fonctionnement sont plus faibles dans les centres médicaux spécialisés, ceux-ci devraient avoir des tarifs plus faibles que ceux des hôpitaux. Sinon, on est en train de payer plus cher pour des services. Madame Laberge estime que la répartition du risque entre le CMS et l'établissement de santé dans les futurs contrats sera intéressante. Par exemple, lorsqu'un patient ne se présentera pas à son rendez-vous chirurgical, la clinique devra assumer les coûts directs et indirects de l'opération. L'établissement de santé devra faire de même si le médecin annule une intervention le jour même pour des raisons médicales. Le M3S resserre aussi la clause de non-recrutement d'employés d'établissements publics avant la fin d'un délai de 90 jours suivant leur départ du réseau. En cas de non-respect de cette clause, il prévoit une pénalité d'un an de salaire de la personne salariée concernée. Cette dernière ne pourra d'ailleurs pas traiter des cas provenant d'établissements pendant les 90 jours suivant son embauche, y stipule-t-on. Une cible impossible à atteindre d'ici mars. Plus de 20 500 personnes étaient en attente d'une intervention chirurgicale depuis plus d'un an au 31 décembre 2022, selon le M3S. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'était fixé pour objectif d'atteindre le seuil de 3 000 d'ici le 31 mars 2023. Il est illusoire de croire que cette cible sera atteinte, selon le Dr Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et co-président de comité du rattrapage en chirurgie du M3S. L'attaché de presse du cabinet du ministre Dubé, Antoine de la Durantais, en convient. Bien que nous constations présentement une tendance à la baisse depuis quelques semaines, on doit être réaliste. Ce sera difficile d'atteindre notre objectif fixé au 31 mars, dit-il. Ce dernier précise que le problème des listes d'attente depuis plus d'un an se concentre principalement dans 3 spécialités, soit la chirurgie générale, l'otorhino-laryngologie et l'orthopédie. Les données que nous avons maintenant peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions et à nous concentrer sur les cas les plus urgents, ajoute-t-il. C'était « De nouvelles primes pour les cliniques privées », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Jésus de où, déjà? Un texte signé André Denis, paru dans La Presse du 23 décembre 2022. Mon petit-fils de 8 ans aime bien les bandes dessinées historiques. Je lui ai déjà acheté celle de Napoléon, d'Alexandre le Grand et autres personnages dont il ne m'est pas toujours apparu qu'ils étaient des modèles de comportement, mais allez savoir. S'il veut se faire une idée par lui-même, il faut qu'il les connaisse. Devant son 4 heures en ma compagnie la semaine dernière, il me confiait que son idée était faite et qu'il ne croyait pas en Dieu. Vaste affirmation. Je l'envie de tant de certitude. Tant pis pour lui, j'ai décidé pour Noël de lui acheter une BD sur la vie de Jésus. Question qu'il sache à tout le moins l'origine de la fête qui l'attend avec fébrilité. Je me suis donc dirigé vers mon Renaud Bré préféré et ai demandé à la jeune préposée à la littérature jeunesse si elle avait l'objet désiré. Elle m'a regardé complètement interloqué. Oui, oui. Vous savez, une histoire de la nativité ou une biographie contemporaine de Jésus. Comme elle semblait visiblement médusée, je lui ai demandé « Vous connaissez bien Jésus ?» J'ai senti que je touchais une corde sensible et que la réponse n'était pas claire. Elle m'a dirigé vers l'îlot spiritualité où j'ai découvert avec ravissement tout sur le tarot, la Bible des minéraux et la vie expliquée par les cartes. On ne s'était pas compris. Ma femme est guide bénévole au Musée des beaux-arts de Montréal et elle guidait récemment un groupe d'élèves de 5e secondaire à qui elle présentait une descente de la croix. Un élève lui demande à brûle-pourpoint de lui expliquer qui étaient les personnages qu'il ne connaissait visiblement pas. Je sens confusément que nous sommes en train de perdre certains repères. Je ne parle ni de foi, ni de croyances religieuses, mais de connaissances universelles fondatrices de l'Occident au cours des 2 derniers millénaires. J'entendais un chef de parti déclarer récemment qu'il n'avait pas assisté à la messe du pape François de passage à Montréal, car il n'était pas catholique. Je lui souhaite bon vent lorsqu'il sera appelé à assister à une commémoration importante à la synagogue ou à la mosquée de sa circonscription, à moins qu'il ne se convertisse d'ici là à l'une ou l'autre religion. Dépité, je me suis rendu aux éditions Pauline, rue Masson, où une préposée du même âge que sa collègue de Renaud Bré s'est empressée de me commenter tous les livres sur le sujet selon l'âge de l'enfant et les souhaits du papy. Il y avait au moins une 30aine de titres uniquement pour enfants. Je crains que nous soyons en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux bien que le Québec ait connu depuis les 50 dernières années une désaffection de la pratique religieuse, mais est-il normal que des personnes de moins de 50 ans n'aient aucune idée de leur héritage historique? Une étudiante en histoire de l'art, à l'aube de ses études, demandait à son professeur à l'université ce qu'il recommandait comme lecture. « Indéniablement la Bible, répondit-il, lecture essentielle si vous voulez comprendre l'histoire de la peinture. » Que nous le voulions ou non, nous sommes le produit d'une civilisation qu'il faut connaître avant de porter un regard critique sur celle-ci. J'ai hâte de voir la tête de mon petit-fils lorsqu'il ouvrira « Jésus en BD » chez Bayard Jeunesse. On va le lire ensemble. Athée, ça ne me regarde pas, mais ignorant, jamais. Vous venez d'entendre un texte d'opinion signé André Denis, paru dans la presse du 23 décembre 2022 sous le titre « Jésus de où déjà ?»
Quand l'histoire des Noirs fera simplement partie de l'histoire. Un texte d'André Magny, paru le 5 février 2019 dans La Liberté, journal francophone du Manitoba. Depuis 1995 au Canada, février annonce ce temps de l'année où est souligné l'apport des Afro-Canadiens à leur communauté, qu'elle soit francophone ou anglophone. Aujourd'hui, un tel mois est-il toujours pertinent? De fait, il faut remonter à 1926 aux États-Unis pour voir apparaître une première célébration de l'importance des Noirs au pays de l'Oncle Sam. C'est l'historien afro-américain Carter G. Woodson qui proposa d'honorer les réalisations des Noirs américains et d'accroître ainsi la connaissance de leur histoire à l'occasion de la Negro History Week. Par la suite, en février 1970, la semaine devient un mois de commémoration. Ce dernier est officiellement reconnu en 1976 par le gouvernement américain dans la foulée du bicentenaire des États-Unis. Au Canada, selon Patrimoine canadien, bien qu'il y ait eu certaines célébrations au début du 20e siècle, il faudra attendre 1995 avant que la Chambre des communes ne reconnaisse officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada, à la suite d'une motion initiée par l'honorable Jane Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement. Madame Augustine, née à la Grenade, était membre du Parti libéral du Canada. Du côté francophone, Jean Alfred est passé à l'histoire quand il a été élu député en Outaouais lors de la première élection du Parti québécois en 1976. De son côté, Leonard Braithwaite sera le premier Afro-Canadien à siéger dans un Parlement, soit celui de l'Ontario, en tant que député libéral d'Etobicoke en 1963. Et maintenant, à la question quelque peu impertinente sur le bien-fondé d'un tel mois de nos jours, le rappeur et historien québécois Webster va droit au but. L'histoire des Noirs, ce n'est pas vraiment encore dans les mœurs des gens. Quand on parle d'histoire des Noirs, les référents sont afro-américains. Les référents afro-canadiens, on n'en parle pas. Tout comme l'histoire des Autochtones, l'histoire des Noirs au Québec ou au Canada, ce n'est pas dans la tête des gens. Après tout, qui peut affirmer qu'il a entendu parler dans ses cours d'histoire du primaire ou du secondaire de la présence de l'Africain Mathieu Dacosta, polyglotte, français, hollandais, portugais, et interprète entre les Micmacs, les Innus et Champlain lors de ses premiers voyages en Nouvelle-France? Bien que Dacosta fût un homme libre, le porte-parole du mois de l'histoire des Noirs à Québec affirme qu'il n'était pas rare que le bilinguisme ou le trilinguisme de certains esclaves soit mis en évidence par leurs maîtres ou les esclavagistes qui les vendaient. Pour Webster, il n'est pas question de faire deux voies parallèles en ce qui concerne l'histoire des Noirs et l'histoire tout court. Il faut sortir l'histoire des Noirs du mois de février. Cette histoire doit intégrer l'histoire, point. C'est notre histoire collective. En francophonie canadienne. Alors qu'il n'y a qu'à regarder la composition des bureaux des différents organismes œuvrant au soutien des francophones au Canada pour voir combien est florissant l'engagement des Noirs francophones, certaines associations, comme la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, FFCB, n'hésitent pas à soutenir diverses activités reconnaissant la vitalité de la communauté noire. Pour Padmini Chundun-Singh, présidente de la FFCB originaire de l'île Maurice, le mois de l'histoire des Noirs est pertinent en milieu minoritaire francophone car il va dans le sens de l'inclusion de la reconnaissance. Ce sont des valeurs piliers de notre communauté. Connaître l'histoire du Canada, de ses communautés, ne peut que nous enrichir. Cela nous apprend que la nation s'est bâtie, parfois dans la peine, de cultures et d'ethnies diverses. Questionné à savoir si les Franco-Colombiens apprécient à leur juste part tous ces accents formant leur communauté, Padmini Chundun-Singh est d'avis que, pour certains, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut apprivoiser le temps de la découverte. Pour d'autres, c'est une façon de vivre et une ouverture d'esprit dont on s'enrichit au quotidien. Dans l'Est, à l'île du Prince-Édouard, la Société Saint-Thomas-d'Aquin, SSTA, est dirigée par Isabelle Da Silva-Gilles. Originaire de France, elle reçut en 2016 le prix de championne de diversité décerné par la Coopérative d'intégration francophone de l'île du Prince-Édouard. Bien que la SSTA n'organise rien pour le mois de l'histoire des Noirs, sa directrice générale est d'avis que ce serait certainement une opportunité à explorer dans le futur. Celle-ci estime que la pertinence d'un tel mois est liée au fait qu'il existe encore le besoin de sensibiliser les citoyens et citoyennes, quelle que soit la génération à laquelle ils ou elles appartiennent. C'est une occasion de célébrer l'histoire et le patrimoine des Canadiens noirs. C'était « Quand l'histoire des Noirs fera simplement partie de l'histoire », un texte d'André Magny, paru le 5 février 2019 dans « La Liberté », Journal francophone du Manitoba. Marcus Chambers, un pionnier conscient de son rôle. Un texte de Mariam Basso, paru le 7 mars 2019 dans La Liberté, journal francophone du Manitoba. Élu au conseil municipal à Winnipeg en octobre 2018 et immédiatement promu maire suppléant, Marcus Chambers est un homme curieux, doté d'un sens aigu du devoir. Habitant à River Park South depuis 1993, Marcus Chambers y a construit sa première maison et fondé sa famille. Winnipeg l'a vu grandir et devenir le premier homme noir à être élu au conseil de la ville. Mes parents sont originaires de la Jamaïque et des Antilles, et se sont rencontrés lorsqu'ils ont quitté l'île pour se rendre en Angleterre afin de terminer leurs études postsecondaires. Ils ont commencé à sortir ensemble en Angleterre, se sont mariés et ont eu 7 enfants, dont je suis un jumeau. Malheureusement, ma sœur jumelle est décédée juste avant notre premier anniversaire. Ma famille a immigré au Canada en 1967 quand j'avais 3 ans. Et je vis depuis à Winnipeg. Winnipeg ne comptait que relativement peu de personnes de couleur à la fin des années 1960. Malgré cela, la famille Chambers y a fait son nid. Mes parents étaient très actifs dans leur communauté culturelle et dans les quartiers où nous nous regroupions. Ils ont essayé, ainsi que nous, leurs enfants, de s'immerger pleinement dans la culture canadienne. Pendant l'hiver, je jouais au hockey avec les autres enfants. Je n'ai jamais remarqué aucune différence entre eux et moi. Spécialisé en sciences politiques et sociales, l'homme politique a toujours su qu'il ferait de ce domaine son métier. Au début des années 1970, j'ai rencontré le premier ministre Pierre Trudeau à Fort Garry. Je ne savais pas qui il était, mais je me suis souvenu de toute l'agitation autour de lui. Je me suis intéressé à beaucoup de politiciens durant mes années d'école, en particulier les Américains. Je cherchais les noms des présidents dans mon encyclopédie et mémorisais de petits faits à leur sujet et sur leur mandat. Je pense que me spécialiser en sciences politiques et finalement devenir un homme politique est un prolongement de ce que j'ai toujours été. Avant de faire le saut en politique, Marcus Chambers a passé une 10aine d'années au sein de Travail et Immigration Manitoba en tant que fonctionnaire provincial. Débuter une carrière politique pour représenter Saint-Norbert a été une décision mûrement réfléchie pour l'homme de 55 ans, car ceci risquait d'influer sur sa vie de famille. J'ai pris le temps qu'il fallait avant de me décider à changer de voie. À l'époque, mes fils étaient très jeunes et il m'a semblé important d'investir mon temps dans leur éducation. La politique nous éloigne de notre vie de famille. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont parents et qui travaillent dans la sphère politique, car c'est un sacrifice. J'ai beaucoup aimé partager le quotidien de mes fils, tant sur le plan éducatif que récréatif. Il était important que leur mère et moi fassions partie de chaque aspect de leur vie pour favoriser une communication plus étroite et établir des valeurs familiales appropriées qui ne seraient pas compromises par les pressions des pères ou de la société. Maintenant que mes enfants sont dans leur 20aine et relativement indépendants, saisir l'opportunité de devenir conseiller pour Saint-Norbert m'a paru plus évident. Conscient du rôle de pionnier que lui incombe ce poste, Marcus Chambers est heureux. Je suis humble et très fier en même temps. Atteindre ce niveau, c'est beaucoup de travail. Ça a été une tâche immense durant plusieurs années avant de pouvoir mériter cette reconnaissance. Mais ça me rend très fier, car à chaque fois que je vois mon nom inscrit dans la salle des conseillers, c'est gratifiant. Il y a avec ça toutes les responsabilités qui accompagnent ce poste. L'élection n'a en effet pas été de tout repos. Mes craintes étaient liées au fait que ce processus dans son ensemble est intimidant. Je suis assez bien connu à Saint-Norbert, mais je savais que je devais frapper à plus de portes que mes adversaires pour me donner la meilleure chance d'être élu. Même si je n'étais pas aussi préoccupé par le résultat, j'avais peur de décevoir ma famille et mes bénévoles qui ont investi temps et ressources dans ma campagne. J'ai été agréablement surpris par l'accueil des habitants. Passionné par le voyage, Marcus Chambers est conscient de la chance qu'il a de pouvoir parcourir le monde et de connaître d'autres cultures grâce à son emploi au service de la province. Les expériences que j'ai accumulées m'ont aidé à interagir pleinement avec des personnes d'origine diverse et m'ont permis de comprendre à quel point nous sommes tous semblables. J'ai étudié le français pendant 5 ans à l'Alliance française et je compte en profiter pour en apprendre davantage sur la communauté francophone via la langue, sur la variété des pays francophones et sur la culture de ces pays. Les francophones sont importants dans l'histoire de notre ville et dans son avenir. Lorsque des immigrants arrivent au Manitoba en provenance de pays francophones non traditionnels, nous devons rester inclusifs en tenant compte non seulement de leurs compétences en français, mais également des considérations culturelles supplémentaires qu'ils apportent. L'élu devant sa responsabilité de février. Février, le mois de l'histoire des Noirs, a été l'occasion de célébrer les réussites et encourager la population noire à se dépasser. J'ai été invité à de nombreux événements durant le Black History Month, ainsi que d'autres représentants élus. En tant que premier Canadien d'origine afro-antillaise élu au conseil de notre ville, je tiens à donner le meilleur exemple à toute personne de couleur qui serait intéressée par une candidature à une fonction publique à tout niveau de gouvernement. L'élu de Saint-Norbert rappelle le travail des personnes oubliées qui ont contribué à faire du pays ce qu'il est. Ce mois est une opportunité de partager notre histoire. Il y a eu tellement de personnes qui ont créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Certes, nous connaissons bien les athlètes, acteurs et chanteurs noirs, mais qu'en est-il des chercheurs, scientifiques, médecins et politiciens dont nous sommes la descendance? Leur contribution est gigantesque et leur sacrifice tout autant. C'est encore malheureusement méconnu. Leur nom devrait figurer dans les livres d'histoire et célébrer au même titre que les autres. J'admire nos éducateurs noirs qui ont consacré leurs études supérieures à l'enseignement de nos jeunes étudiants. J'admire également ces pionniers noirs de notre histoire qui ont été les premiers dans leur domaine à réaliser des choses qui ont permis de franchir les frontières de nos cultures. C'était Marcus Chambers, un pionnier conscient de son rôle, un texte de Mariam Basso, paru le 7 mars 2019 dans La Liberté, journal francophone du Manitoba.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visiva.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Gilbert Lepage et Luc Mercure à la lecture, Suzanne Beauchamp, Pierre Duclos et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.